wish they'd give me some bullets for this gun.
Bonjour cher Emmanuel et bonjour à vous tous qui souhaitez aujourd'hui apprendre à viser et à tirer avec des balles à blanc. Et pourquoi pas? Connaissez-vous Shane, l'homme des vallées perdues en français? Ce cow-boy qui s'installe le temps d'un film auprès d'une famille du Wyoming en lutte contre les ranchers qui veulent les déloger. Le personnage principal est un petit garçon, Joey, fasciné par Shane, qui va lui transmettre bien plus que le maniement du pistolet. Derrière ces faux airs de petites maisons dans la prairie, le western pose une question cruciale. Comment devient-on un héros? Un adulte, par la force ou par la vertu. Le film sort sur les écrans en 1953. Il est nommé 6 fois aux Oscars, fait un carton aux États-Unis et reste depuis 65 ans inconnu du public français. Tout comme sa musique, qui reste introuvable. Écoutez le réalisateur George Stevens s'exprimer à ce sujet.
Well, to me, I don't think there's any more of a motion picture that is more important than its music, musical background, if you please.
À mon avis, dans un film, il n'y a rien de plus important que la musique ou le fond sonore, si vous voulez. Car la musique, c'est elle qui va chercher les images et qui leur apporte leur émotion. Et aussi, elle contribue beaucoup à faire l'illusion et à faire entrer le spectateur dans le film. La partition de l'homme des vallées perdues que M. Victor Young a composée a été le fruit d'un long, long travail. Il a mis beaucoup de temps et d'efforts à être réalisé. Et ça s'entend surtout dans le thème mélodie qui revient souvent dans le film et qui va vraiment être associé avec le personnage de Shane. C'est à la fois la mélodie qui donne son caractère à Shane et le film qui fait entendre la mélodie. Et vous voyez, rien qu'en l'écoutant, je crois qu'on arrive à sentir le lien qui est entre les deux. Vous n'avez pas le disque, là? Vous voulez pas le mettre? Je crois que ce sera beaucoup plus parlant que ce que je suis en train de vous raconter. Elle a quelque chose du film, cette musique de Victor Young.
Bonjour Yves Pedrono.
Bonjour.
Je vois sur votre visage la joie qui apparaît au moment d'écouter cette musique.
Oui, 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 tout à fait, parce que je l'ai cherché vainement dans les vinyles jadis et dans les DVD plus récemment, et c'est une musique qui est introuvable.
D'un film surtout.
D'un film qui est lui également méconnu. Et c'est étonnant, cette musique, parce que le musicien qui l'a composée n'est pas n'importe qui, c'est Victor Young, qui a notamment fait Johnny Guitar, c'est quand même une musique célèbre, ou bien Sous le plus grand chapiteau du monde. Enfin bon, c'est un musicien qui, dans le monde du cinéma, est connu, très connu.
Et cette musique ouvre le film dont nous allons parler aujourd'hui, Shane. Vous êtes Yves Pedrono, docteur en sciences de l'éducation, ancien professeur de philosophie, passionné de cinéma américain, notamment de western. Vous étiez venu parler à ce même micro il y a plusieurs années maintenant de western. Vous êtes l'auteur de « Et Dieu créa l'Amérique », de la Bible western, l'histoire de la naissance des États-Unis aux éditions Kimé. Et lorsqu'on vous a proposé de participer à cette semaine, vous avez d'emblée suggéré, ou même demandé de parler de ce film. Pourquoi ce film-là, ce western-là, est-il inconnu en France et pourquoi vous plaît-il autant?
Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, aux États-Unis, c'est un film qui a vraiment eu du succès, qui a été nominé 6 fois, qui a obtenu un Oscar pour la photographie et qui, curieusement, en France, eh bien, a été un petit peu méprisé. Alors, pourquoi? Eh bien, il faut revenir à l'époque. Il y a un critique dont vous avez évidemment entendu parler, qui s'appelait André Bazin, cofondateur des Cahiers du cinéma. Et André Bazin, en voyant ce film, mais En réalité, c'était parti un petit peu plus tôt avec My Darling Clementine, La Poursuite Infernale.
Dont on parlait hier.
Ou avec Le Train Sifflera Trois Fois, avec La Captive aux Yeux Clairs. Bon, André Bazin avait le sentiment que le western n'était plus ce qu'il avait été. Le modèle de western pour Bazin, c'est Butticher. C'est-à-dire, c'est de l'action pure. Et il a le sentiment qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, le western change. Ce en quoi il a tout à fait raison. Simplement, à mon avis, il va faire une analyse qui est totalement fausse. C'est-à-dire qu'il va considérer que le western souhaite se renouveler pour des raisons psychologisantes, pour esthétisantes, voilà. Ça, et il va appeler cela, d'ailleurs, le sur-western. Bon. L'Homme des Vallées Perdues, Shane, c'est vraiment ce qu'il appelait un sur-western, et donc il va en faire une critique sévère. Et le milieu cinéphilique français, eh bien, va du coup rejeter un petit peu ce film, à mon avis, tout à fait à tort.
Pourtant, tout le monde n'a pas toujours suivi l'avis d'André Bazin, c'est le moins qu'on puisse dire.
Non, bien sûr, mais je crois quand même qu'il a pesé, quoi, et qu'il n'a pas du tout compris. Enfin bon, moi c'est ma théorie, n'est-ce pas? Moi je considère que, au contraire, à partir de 1946, le western prend un virage qui est crucial, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il devient véritablement le récit épique de la naissance des États-Unis.
Et pourquoi à ce moment-là? C'est après la Seconde Guerre mondiale que
après
ça change?
Après la Seconde Guerre mondiale, et qui a un rôle déterminant, parce que c'est à ce moment-là que les États-Unis acquièrent le statut qu'ils ont encore pour le moment, ça ne durera peut-être plus très longtemps, mais qu'ils ont encore pour le moment de première puissance mondiale. Et ils ont un problème, ils n'ont pas de passé, enfin, par rapport aux pays qu'ils ont traversés, que les GI ont traversés pendant la Seconde Guerre mondiale, à la France, l'Italie, même l'Allemagne, sont des pays qui ont une histoire plus que millénaire. Et ils font un complexe. Par conséquent, il leur faut des racines. Et ces racines, ça va être le récit, l'épopée, de la conquête de l'Ouest.
Mais le western existait déjà avant la Seconde Guerre mondiale.
Mais le western avant la Seconde Guerre mondiale, c'était un genre qui était souvent assez bâtard et qui n'avait pas, mis à part peut-être un film de 1930 de Walsh qui est The Big Trail, qui lui avait un peu innové et qui avait un peu cette dimension épique, mais sinon la plupart des films n'avaient pas cette dimension épique. Et quand j'avance cette idée, on évidemment on évoque immédiatement La Chevauchée Fantastique de John Ford. Eh bien, La Chevauchée Fantastique de John Ford, précisément, c'est l'exemple de ce que je veux démontrer. C'est-à-dire que, eh bien, La Chevauchée Fantastique de John Ford, ce que peu de gens savent, c'est inspiré directement de Boule de Suif. Et Ford se moquait beaucoup des critiques américains en disant, ils ne se sont même pas rendu compte que j'avais copié Boule de Suif.
De Maupassant,
bien sûr. Et il y a dans La Chevauchée Fantastique une dimension qui n'est pas du tout américaine. C'est la dimension de lutte des classes dans cette fameuse diligence. Il y a un conflit entre des catégories sociales. Et ça, c'est Maupassant. Et c'est pas du tout américain.
Pourtant, ce conflit-là, on y viendra au cours de la discussion qu'on va avoir sur ce film. Ouais. Il est présent. Alors, lutte des classes, je ne sais pas, mais lutte entre différentes parties de la population.
Ah, ça, c'est tout autre chose. Et ça fait partie, là aussi, des idées que je défends. C'est-à-dire que je considère qu'il y a un lien très, très étroit entre le récit biblique et le récit westernien. Et là, alors là, le film en est une illustration, à mon avis.
Alors commençons, on reprend au générique qu'on a entendu qui a ouvert cette émission. Sur ce générique, en réalité, se passe déjà beaucoup de choses. Et les premières minutes du film, la première chose, c'est qu'on voit apparaître au loin, vraiment à l'horizon. On a ce plan très large sur un paysage sublime avec des montagnes qui se découpent à l'horizon. et des, un paysage de toute évidence cultivé au premier plan. Et on a ce cow-boy qui arrive, enfin cet homme qui arrive sur un cheval. On ne sait pas d'où il vient, on ne le saura jamais vraiment. Et c'est ce Shane, ce cow-boy qui vient, qui va vouloir rester un petit peu de temps dans la ferme que l'on voit au premier plan. Dans cette ferme se trouve un petit garçon, Joey, dont le rêve est d'apprendre à se servir d'un fusil, d'un pistolet. Il ne comprend pas pourquoi on le laisse pas tirer avec des vraies balles. Mmh. Et là, on voit déjà l'influence de la Seconde Guerre mondiale dont vous parlez, ce traumatisme sans doute que l'utilisation des armes au cours de la Seconde Guerre mondiale a eu sur le réalisateur en particulier, mais aussi sur les citoyens américains en général. Ça fait déjà beaucoup de choses. Le cow-boy et l'enfant sont présents dès les premières minutes.
Oui, oui. Alors, c'est très important ce que vous dites à propos de l'utilisation des armes et on ne peut pas comprendre le film si on ne connaît pas l'histoire de George Stevens. En effet, George Stevens, c'est quelqu'un qui a fait le réalisateur, qui a obtenu quand même 2 Oscars en tant que meilleur réalisateur, hein, avec Une place au soleil en 52 et Géant en 1957. Bon, ce n'est quand même pas n'importe qui, George Stevens. Bien, c'est un homme qui est très marqué par la Seconde Guerre mondiale, eh bien parce que tout simplement, il l'a faite en tournant des documentaires sur sur les combats. Il était sur les plages de Normandie lors du débarquement et il a suivi l'armée américaine jusqu'au camp de Dachau, d'ailleurs, où il est arrivé en même temps que les premiers GIs américains, et il a filmé par conséquent ce qu'il voyait à Dachau en arrivant, et c'est un document qui a eu une telle importance qu'il a été présenté à Nuremberg, lors du procès de Nuremberg. Bon, donc Stevens est vraiment quelqu'un qui est marqué par la violence, qui est marqué par la guerre, et dans ce film, tout le film en porte la trace. Et notamment, alors vous évoquez cette scène où le petit Joey va apprendre à tirer, enfin où Shane va lui montrer.
Et c'est plus tard dans le film, oui,
parce que plus tard.
Bon. À force de le supplier, Shane finit par céder et lui apprend. C'est une scène glaçante à regarder aujourd'hui. Il lui apprend à manier un fusil, à le charger et à tirer.
Que Stevens a voulu glaçante. Il a attaché une importance colossale au bruit du pistolet. Parce que il voulait montrer que c'était pas quelque chose d'anodin, quoi.
Bon, on l'écoute, cette scène.
Oui.
Prends les mains.
Alors tu veux que je te donne une leçon, hein? Bien. Ce qui importe, c'est de placer la balle où elle doit se loger. Qu'est-ce que tu veux que je vise?
Tiens, cette pierre blanche là-bas, tu la vois? Que j'aimerais en faire autant.
Shane.
Oh, bonjour, Madame Starrett. Je montrerai à Jackie comment on sert d'un revolver.
Je ne tiens pas à ce qu'il...
Oh, si tu l'avais vu tirer, maman.
Je l'ai vu, Jackie.
Et il m'apprend comment
oui,
on tire.
Oui, je sais, chérie. Maintenant, il est grand temps que tu rentres pour t'habiller.
Oh, non.
Allons, dépêche-toi. Je ne veux pas que mon fils s'amuse à ces jeux-là.
Pourquoi est-ce que les mères se mêlent toujours de ce qui ne les regarde pas? Bing, bing, bing.
Qu'est-ce qu'un revolver? Ni pire ni mieux qu'un autre outil. Une hache, une pelle ou une pioche. Qu'il en sorte du bien ou du mal dépend de qui s'en sert. Rappelez-vous ça.
Nous serions bien plus tranquilles si l'on supprimait les revolvers dans cette vallée.
Ce cours et ce coup de revolver, c'est sur France Culture que vous venez de l'entendre. Et les chemins de la philosophie, nous parlons de western cette semaine et aujourd'hui de Shane, l'homme des vallées perdues. Ce western méconnu en France, en compagnie du philosophe Yves Pedronneau. L'extrait est fascinant, ce qu'on vient d'entendre, Yves Pedronneau, parce qu'on oscille entre le rire, la peur, la gêne.
Oui, oui, oui. Et je voudrais revenir sur ce, comment dire, la façon dont avait été marqué George Stevens pendant la guerre. Son fils dit la chose suivante. Il dit, à son retour à Hollywood, en parlant de son père, il a regardé les westerns de John Wayne et a constaté qu'ils utilisaient les pistolets comme les guitares. Et ça, Stevens n'en voulait pas. Il voulait que vraiment, on a l'impression que cette arme était mortelle.
Bah là, on l'a entendu,
non,
le coup de feu,
c'est assez remarquable, oui, oui.
Et la fascination de cet enfant face à Shane qui tire si bien, quelque chose, voilà, est suivi, cela dit, d'une réflexion par Shane sur l'utilisation de l'arme. Il dit, mais c'est comme un outil, le revolver n'est pas mal en soi, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Face au débat contemporain sur l'autorisation du port d'armes aux États-Unis, il y a quelque chose de nouveau.
Et c'est là que la petite réflexion de la maman de Marianne Starrett est de grande importance. Elle dit qu'elle préférerait qu'il n'y ait pas de pistolet dans cette vallée. Et alors, elle a une position avant-gardiste. Et ça me rappelle un documentaire qui est sorti cette année que j'ai vu, qui s'appelle America, où on voit là une jeune maman qui est toute fière d'avoir offert un pistolet à son fils de 5 ans.
Mais le film est ambivalent parce que l'histoire montre aussi que le revolver est indispensable. À l'histoire du film, sans tout révéler maintenant.
Je crois que la philosophie du film est contenue dans le propos de Shane.
Tout
dépend de l'utilisation qu'on en fait.
Alors, si on reprend le fil du film, restons sur cet enfant quand même, Joey. C'est un des seuls westerns, si ce n'est le seul.
Oh, je n'en connais pas d'autres.
Ou c'est un enfant qui est le personnage principal.
Absolument.
Qu'est-ce que ça change?
Ça change. Je crois que ça introduit un peu de merveilleux, un peu de grandeur dans ce film, mais aussi quelquefois un peu de naïveté. Moi je trouve que ça donne beaucoup de fraîcheur au film, que ce soit une histoire vue par un enfant. Je trouve que c'est un procédé très habile et qui était en tout cas absolument novateur à l'époque, et d'ailleurs il n'a pas été suivi. Bon, on pense quand même un petit peu au film de Fritz Lang, Les contrebandiers de Moonfleet, où c'est également un gamin là qui voit le comportement de certains contrebandiers. Il y a un petit rapprochement à faire avec ce film.
Et à partir de ces deux personnages qu'on a présentés dès le début du film, Shane le cowboy et Joey, va se nouer un type de relation très particulier.
Absolument.
Mais un mélange de fascination et d'amour qui accompagne tout le film et qui est tout autant le sujet du film que la trame, disons, plus politique qui va avoir lieu.
Ouais. Et là, Stevens dit « Je voulais qu'il n'ose pratiquement pas regarder Shane ». Mais que quand il le regarde, il ait le sentiment qu'il avait Dieu en face de lui. Voilà, c'est ce que dit Steve. Ce sont les directives qu'il avait données au petit Brandon DeWitt, qui était l'acteur qui jouait Joey.
Et c'est ce qu'on voit à l'écran, les plans rapprochés. Ils sont nombreux sur le visage de l'enfant, donne à voir cette espèce de fascination qui n'en revient pas de voir un homme aussi puissant.
Il a les yeux très expressifs.
Oui. Donc Shane décide de rester dans cette ferme. Oui. Il est de passage, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais on lui propose de rester. Joe Starrett, qui est le père de famille, lui propose de rester dans la maison. Il l'aide aux travaux et va arriver un combat, en réalité, parce que Shane va rencontrer d'autres personnages qui, eux, s'opposent à cette famille. Ce qu'il faut dire, c'est que le conflit qui a lieu sur ces terres est celui entre non seulement ceux qui louent les terres aux paysans, mais aussi entre cultivateurs et éleveurs. Là, c'est des différents types de personnages qui vont s'opposer. Le film fait beaucoup d'opposition. Et suite à une bagarre mémorable où tout le monde se... à main nue et sans armes cette fois-ci, où les gens se cassent des chaises sur la tête, s'envoient des droites et des pains comme ça, mais ça dure plus de 6 à 7 minutes, je crois, eh bien, on retrouve ces personnages à la maison. Le père, Joe Starrett, la mère, Marianne Starrett, Shane, qui se fait soigner en compagnie du petit garçon et va se nouer, à partir de cette scène, quelque chose de fondamental. On l'écoute et puis vous nous direz ce que c'est, Yves Pedrono.
La prochaine fois qu'on se battra avec eux, je leur ferai sentir l'odeur de la poudre.
J'ai vu tout le combat, maman, du commencement à la fin.
Ce n'était pas ta place.
La tienne non plus, Marianne.
J'avais peur. Mais quand papa est venu, il empoigne un homme et l'a flanqué par terre.
Oh, ce que j'ai fait, c'est pas grand-chose. À côté de Shane, tu as très mal?
Pas tellement.
Tous les deux... vous vous êtes battus comme des lions.
Quand t'as reçu la chaise sur la tête, j'ai bien cru que t'étais fichu.
La chaise était rembourrée.
Je suis sûr qu'à vous deux, vous recevriez tout le monde.
Avant de nous attaquer, Riker les regardera deux fois.
Oh, je t'en prie, essaie de ne plus penser à Riker.
Je voudrais bien l'oublier.
Ça va peut-être vous piquer un peu.
Tu verras qu'il dira rien. Même si ça le pique beaucoup. N'est-ce pas, Shane?
Je sais bien que toi, tu ne crierais pas parce que tu es brave.
C'est vrai, je suis presque un homme.
Jackie, va te coucher. Si je vous fais mal, dites-le.
Aïe!
Eh bien?
Jackie, pour la dernière fois, va te coucher.
Oui, moi aussi. Allons-y, fils.
Tu viendras m'embrasser, maman?
Mais oui. J'ai grand peur que vos blessures vous empêchent de dormir.
Oh, ne vous inquiétez pas, ça ira. Merci.
Pourquoi cette insistance sur les blessures, Yves Pellerenaud?
Eh bien, parce que justement, hein, c'est toujours le souci de Stevens qui, comme le dit son fils, n'avait pas du tout envie de faire utiliser les armes ou les poings, d'ailleurs, comme des guitares. Bon, donc il y a un souci de réalisme qui est tout à fait remarquable et permanent dans ce film, notamment par les conséquences de la bagarre. La bagarre a été très violente. Starrett et Shane ont affronté 6 hommes en tout. Bon, ils s'en sont, ma foi, assez bien tirés, mais ils sont blessés. Et là aussi, je ne connais pas d'autres westerns où, à la suite de ce combat, dans les jours qui suivent notamment, le héros porte un bleu assez remarquable à la pommette, ce qui se voit bien d'ailleurs, où le soir il se fait soigner, on lui met, je sais pas si c'est de la teinture d'iode ou du mercurochrome sur les blessures. Bon, ça c'est quand même quelque chose de tout à fait original, et ça marque bien le souci de Stevens du réalisme.
Du réalisme, peut-être aussi d'une forme de, un souci de, d'épaisseur psychologique. Ça donne au personnage une épaisseur que le cow-boy qui ressemble à un dieu n'a pas.
Oui, ce que Bazin avait détesté. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on a affaire à un être humain qui est capable de souffrance, qui a des pensées, qui n'est pas uniquement un utilisateur d'armes, quoi, hein, qui tire plus vite que les autres. Certes, on verra qu'il tire plus vite que les autres, oui. Mais il n'empêche que c'est aussi un être humain, profondément humain, qui souffre dans sa chair. Un personnage très étonnant, Shane. Moi, j'ai pensé notamment à un personnage du Moyen-Âge qui est le chevalier errant de Thomas d'Aleyrand. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Bon, on peut également évoquer Saint-Georges terrassant le dragon, parce que bon, il va quand même accomplir ses travaux d'Hercule, en quelque sorte. Hein. Il va faire quelque chose d'absolument remarquable. Bon, mais c'est un personnage fascinant, mais humain.
Humain, rendu humain par la caméra du réalisateur, oui. Mais divinisé par le regard de l'enfant.
Absolument. C'est ça qui est tout à fait remarquable et très intéressant dans ce film, c'est qu'on a ce double regard. Et d'ailleurs, bon, même si c'est une plaisanterie de la part de Shane, quand il fait semblant, quand il dit « aïe » et que l'enfant dit « ah ben, bon », on a l'impression qu'il chute un peu pratiquement, quoi, parce que Joey n'imaginait pas qu'il puisse avoir mal, quoi.
Alors cette relation, cette fascination va encore plus loin avant d'en arriver à la problématique plus politique qui fait le sel narratif de l'histoire. Je vous propose qu'on écoute encore un extrait, celui qui suit, celui que l'on vient d'entendre, où Marianne guérissait les blessures de Shane, puisque cette fois-ci, les paroles qui sortent de la bouche de l'enfant sont vraiment troublantes pour le spectateur et on se demande si finalement il n'y a pas quelque chose, alors certes de psychologique, même de tendancieux qui s'installe dans cette famille.
Tu veux que je te dise quelque chose, maman?
Qu'est-ce que c'est? Alors, Jackie?
Maman, j'aime bien Shane.
C'est vrai?
Je l'aime pas ce qu'autant que papa. Ça t'ennuie?
Mais non, mon chéri.
Il est si brave. Et toi, maman, tu l'aimes pas?
Mais si, Jackie, moi aussi. Bonne nuit, mon chéri.
Qu'y a-t-il, Marianne?
Joe, serre-moi dans tes bras. Surtout ne dis rien, mais serre-moi très fort.
Bonne nuit, maman.
Bonne nuit, Jackie.
Bonne nuit, père.
Bonne nuit, mon petit.
L'enfant dit tout ce que les adultes n'osent pas s'avouer, Yves Pedrone,
oui,
en fait,
absolument.
C'est ça. Et quand la mère demande à son mari de la serrer dans ses bras très fort sans rien dire, elle sent bien le trouble que décrit l'enfant à sa façon.
Tout à fait, tout à fait. Et je considère, alors c'est un des aspects de ce film, qui au départ, dans l'esprit de Stevens, était essentiel. Plus qu'un western, il avait imaginé une classique histoire de triangle amoureux entre donc Joe Starrett, le père, Marianne, la mère, et Shane. Bon, enfin Marianne étant amoureuse des deux. Alors, on retrouve effectivement ça dans le film, sauf que oui. Ce n'est pas l'aspect le plus important, mais il n'empêche que en matière d'histoire d'amour dans le western, je considère que c'est une des plus belles parce que justement, elle va rester totalement, on va dire théorique, elle est platonique, elle n'ira pas plus loin. Le geste le plus avancé sera une poignée de main entre Shane et Marianne, et ça n'ira pas plus loin. Ça pèse quand même dans le film, et je préfère pour ma part, encore une fois, cette histoire, par exemple, à celle qui est pourtant assez belle, ma foi, entre Vienna et Johnny Guitar dans le film Johnny Guitar, bon, parce que c'est une histoire qui est quand même plus explicite et peut-être plus lourde, alors que dans L'Homme des Vallées Perdues, ça reste quelque chose d'assez romantique et d'assez discret.
Ce que ce film a de très étonnant, c'est le contraste entre l'esthétique qui était assez déconcertante quand on le regarde aujourd'hui en 2018, parce qu'on voit, je faisais la référence à La Petite Maison dans la Prairie, il y a quelque chose de très bucolique, coloré, et une manière de filmer au début, en tout cas, puisque la réalisation s'affine à mesure que le film avance, et de plus en plus adéquate et très précise par rapport aux scènes, mais quelque chose d'assez, presque attendu. On a l'impression qu'il joue des clichés, au début, par les plans, par les personnages, par l'histoire. Alors que ce qui est montré, quelque chose, vous insistez beaucoup sur cet aspect-là, d'inattendu. Le cow-boy est quand même amoureux d'une femme qui est mariée, qui est la mère du petit garçon, qui lui-même aime le cow-boy. C'est quelque chose qui n'est pas du tout convenu.
Oui. Alors, sur l'aspect cadre, c'est-à-dire le décor et tout ça, alors il y a eu un gros travail d'objectif, parce que on est au pied des grands tétons, la chaîne des grands tétons, mais en réalité, cette chaîne est beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine du lieu du tournage. Ce sont les objectifs utilisés qui créent l'impression, assez oppressante d'ailleurs, de la présence très rapprochée de cette chaîne de montagnes, qui sont omniprésentes, qu'on voit presque dans tous les plans. C'est un paysage absolument splendide. Et pour ce qui est de la cabane, mais également des vêtements, George Stevens s'était entouré des conseils d'un spécialiste de l'Ouest, un monsieur qui était sourd, qui s'appelait Jouet de Jung, mais qui apparemment était un très fin connaisseur de l'histoire de l'Ouest. Joé de Jung a conseillé les vêtements, notamment la construction de la cabane. Et tout ceci, effectivement, donne, je crois, bon, à la fois un côté assez image d'Épinal, oui. Il y a un peu de ça, mais en même temps, malgré tout, une certaine forme de réalisme, encore une fois. Et j'en reviens au fils de George Stevens, il disait « Remarquez ici l'intérieur de la cabane, le choix des vêtements, des accessoires, la chemise et le pantalon du petit garçon. » Et il ne mentionne pas la chemise du père, jouée par Van Heflin, mais si vous faites bien attention à la chemise du père, on a l'impression qu'elle n'a pas été lavée depuis 3 mois. Hein. Ce qui est probablement un peu plus vrai que ce qu'on voit dans pas mal de westerns.
À la différence de la chemise du cow-boy des affameurs dont on parlait lundi dernier, qui vous explique bien qu'il a toujours une chemise en cours, une chemise sale et une chemise en train d'être lavée. Détail n'est pas anodin. Alors, comme tout bon western qui se respecte, il y a forcément une référence à la fondation de la nation américaine, et en l'occurrence, c'est la fête de l'indépendance ici. Il y a un moment festif au milieu du film, avant que tout bascule vers la violence. Écoutez, cette célébration festive qui ne peut pas se passer d'une référence à la loi, évidemment.
Oui.
Ça mène sur mes terres et tu voudrais que je leur dise, vous me dépouillez, mais vous êtes les bienvenus.
J'exagère un
ça
peu.
Ça ne te coûte pas cher à toi. Toi et moi, on se connaît depuis longtemps, ça. Je veux être sincèrement raisonnable, mais ça ne peut pas durer ainsi.
Je voudrais que tu comprennes qu'il y a de nos jours des limites dangereuses à franchir. Je
reconnais que j'ai respecté la loi et que les revolvers n'ont pas parlé. Ouais, j'ai de temps en temps malmené ce tas de bouseux. Mais ce qu'il faut que tu admettes, c'est que mes hommes n'ont jamais tué quelqu'un.
Et maintenant ?
Alors, qui parle dans cet extrait, Pedrono ?
Eh bien, c'est Riker qui se veut le propriétaire de la vallée, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui est donc éleveur, et puis Grafton qui est le propriétaire du petit commerce, là, qui fait en même temps saloon et où on trouve un petit peu tout ce qu'on veut. Et Grafton est un brave type, dans le fond, et il aimerait que tout se passe calmement, et il est inquiet parce que vient d'arriver au saloon, à la demande de Riker, un personnage qui est tout à fait inquiétant, qui est Jack Wilson. Enfin, on apprendra que c'est Jack Wilson ensuite, c'est-à-dire un tueur, en fait, qui vient de Cheyenne. Bon. Et là, Grafton s'inquiète. Bon. Et c'est vrai que Riker, jusque-là, a à peu près respecté la loi, si on accepte que le fait d'abîmer les cultures...
Oui, une des premières scènes, il vient piétiner quand même les cultures de la famille.
Oui, quand même. Hein, ouais. Bon. Mais enfin, ce n'est pas allé trop loin. Mais c'est vrai que ce western, alors ce n'est pas le cas de tous les westerns, bon, il se situe à une époque... On est censé être, c'est ce que dit Stevens, en 1889. Bon, donc on est vraiment à une époque où la question, la conquête de l'Ouest est pratiquement terminée. Les Indiens, hélas, ont été décimés.
Bah, ils sont absents du film, en tout cas.
Ils sont totalement absents. Évoqués à un instant à propos du passé de Riker. Bon. Comme titre de gloire, en quelque sorte, le fait de les avoir éliminés. Bien. Mais ce qui est fondamental maintenant, c'est que le pays prenne l'habitude de faire respecter la loi. Et donc l'instauration de la loi, et ça c'est un thème très biblique, l'instauration de la loi est extrêmement importante. Et c'est pour ça que Riker y fait allusion. Mais il y a eu un petit peu avant, et dans la bagarre que nous avons évoquée tout à l'heure dans le saloon, dans cette bagarre, il y a la plupart des cultivateurs, un peu lâches d'ailleurs, assistent à la bagarre de loin. Et l'un d'entre eux dit, c'est Lewis, Lewis va dire « Ah !» et dire que le shérif est à... alors. Dans la version française, c'est trois jours de cheval, et dans la version américaine, c'est 100 miles. Bon, Ça doit être
d'un
à peu
côté,
près
la, la durée, de l'autre, la,
voilà,
distance,
de l'autre la distance.
Dans les deux,
oui,
cas, le shérif, oui, est très, oui, loin, oui, donc la, oui, l'application, oui, de la, oui, loi met, oui, du temps à se,
oui,
faire.
Oui. Je crois que c'est très important parce que ça pose le problème de la difficulté, hein, de faire appliquer la loi à ce moment-là, mais peut-être pas seulement à ce moment-là d'ailleurs, parce que l'autre jour, j'ai vu le même documentaire dont je parlais tout à l'heure, américain. Il y a à un moment donné un vieil homme dans une petite ville de l'Arizona qui s'appelle Seligman, et là on est dans la réalité, n'est-ce pas ? Donc un vieil homme qui dit ah ben moi, vous savez, j'ai mes armes, parce que si quelqu'un arrive, je me défendrai, comprenez ? Le shérif est à 80 kilomètres. On retrouve un petit peu la même problématique, chose, que dans Chaîne.
Mais c'est la problématique de presque tous les westerns. Si, oui, les cow-boys se substituent, oui, à la loi, c'est non seulement parce qu'ils, oui, contestent la loi de l'État et de l'autorité, mais parce qu'ils sont sur place, par, oui, définition, puisqu'ils sont,
oui,
partout.
Oui, absolument.
Là, on est au cœur du conflit qui va opposer les personnages. Riker, oui, d'un côté, oui, les colons de l'autre, à qui louent les terres pour les cultiver. On va entendre un extrait un petit peu plus long qui est parfait pour montrer les enjeux soulevés par ce film et comment la tension va se nouer et s'accroître à ce moment-là du film. On est presque à la moitié du film. On a l'opposition entre le propriétaire et celui qui loue, mais aussi entre les éleveurs d'un côté et les cultivateurs de l'autre. Ça, c'est très important, Yves Pedrone, expliquez-nous.
Ah oui, c'est extrêmement important parce que, eh bien, nous retrouvons là le mythe de Caïn et Abel. Je rappelle, pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec la Bible, que Caïn est cultivateur et qu'Abel est éleveur. Et donc, à travers ce mythe biblique, en fait, en raccourci, c'est un petit peu l'histoire de l'humanité qui est évoquée. Bon, on oublie les chasseurs-cueilleurs. Bon, mais on passe tout de suite au stade de l'élevage extensif, de l'élevage en milieu naturel. Mais on le sait, et c'est effectivement un petit peu ce qui s'est produit quand même, c'est-à-dire que, eh bien, quand les humains vont se fixer en un lieu et devenir sédentaire, on va passer à la culture. Et peu à peu, l'élevage perdra sa place. Bon, on va assister au même phénomène. Et au départ, aux États-Unis, ce sont surtout les éleveurs qui vont occuper le terrain. Ça, c'est la vérité, c'est la réalité. Bon, et c'est le gouvernement, à partir de 1840, qui va donner pour une somme symbolique des terres vierges à des colons qui vont, eux, commencer à pratiquer la culture. Et là, on est tout à fait dans ce cas-là. D'ailleurs, Starrett le dit. Il le dit, j'ai été autorisé par le gouvernement à venir ici. Par conséquent, il estime que le fait d'occuper cette terre est légitime. Alors que Riker, lui, va faire jouer l'ancienneté, hein, le fait qu'il était là avant.
Tu t'es montré féroce envers nous, Riker. Nous étions dans notre droit, pourtant.
Ah oui, vous aviez le droit. Écoute, Starrett, quand je suis venu dans cette contrée, t'avais peut-être l'âge de ton fils. On a rudement trimé, moi et mes camarades qui sont presque tous morts. Et encore la cicatrice d'une blessure faite par une flèche. Ce pays est notre œuvre. On l'a fait au prix de nos peines, de notre sang. Le bétail qu'on amenait était volé par les Indiens. Il est hors la loi. Si vous êtes en sûreté, c'est parce qu'on les a chassés. Partout dans la vallée, on est en sécurité. Grâce au sacrifice de mes camarades. Et puis des paysans accourent pour s'installer sur mes terres. Ils posent des clôtures, ils prennent mes points d'eau. Pour leur propre usage. Certains, comme toi, creuse des fossés et dérive l'eau au point d'assécher les ruisseaux, ce qui m'oblige à chercher d'autres pâturages pour mon bétail. Et tu dis que je n'ai aucun droit sur ce sol? Les hommes qui ont travaillé, couru des risques n'auraient pas de droit? Je croyais au moins juste et honnête.
Je ne cherche pas à nier vos mérites.
C'est tout de même pas toi qui as découvert cette contrée. Déjà, trappeurs et indiens la parcouraient bien avant que tu t'y montres. Ils occupaient ce pays bien avant toi.
Sans y faire d'élevage.
Et quand tu parles de droit, dans ton idée, c'est le droit d'assurer que personne d'autre que toi n'en a. Le gouvernement est d'un autre avis.
Je ne veux pas discuter. Je t'ai fait une proposition équitable.
Et les autres?
Chêne sait que je l'embaucherai quand il voudra.
Pour les autres fermiers, que feras-tu?
Écoute, sois raisonnable. Tu sais bien qu'il n'y a pas que des atouts dans un jeu de cartes.
Un enfant ne s'attaque pas aux personnes, mais aux choses. Et bientôt, il apprend par l'expérience à respecter quiconque le passe en âge et en force. Mais les choses ne se défendent pas elles-mêmes. La première idée qu'il faut lui donner est donc moins celle de la liberté que de la propriété. Et pour qu'il puisse avoir cette idée, il faut qu'il ait quelque chose en propre. Lui citer ses hardes, ses meubles et ses jouets, c'est ne lui rien dire, puisque, bien qu'il dispose de ces choses, il ne sait ni pourquoi ni comment il les a. Lui dire qu'il les a parce qu'on les lui a donnés, c'est ne faire guère mieux, car pour donner, il faut avoir. Voilà donc une propriété antérieure à la sienne, et c'est le principe de la propriété qu'on lui veut expliquer. Lecteur, remarquez, je vous prie, dans cet exemple et dans 100 000 autres, comment, fourrant dans la tête des enfants des mots qui n'ont aucun sens à leur portée, on croit pourtant les avoir bien instruits. Il s'agit donc de remonter à l'origine de la propriété, car c'est de là que la première idée doit naître. L'enfant, vivant à la campagne, aura pris quelques notions des travaux champêtres. Il n'aura pas vu deux fois labourer un jardin, semer, lever, croître des légumes qu'il voudra jardiner à son tour. Un beau jour, il arrive empressé et l'arrosoir à la main. Ô spectacle, ô douleur, toutes les fèves sont arrachées, tout le terrain est bouleversé, la place même ne se reconnaît plus. Ah, qu'est devenu mon travail, mon ouvrage, le doux fruit de mes soins et de mes sueurs? Qui m'a ravi mon bien? Qui m'a pris mes fèves? Ce jeune cœur se soulève. Le premier sentiment de l'injustice y vient verser sa triste amertume. Les larmes coulent en ruisseaux et l'enfant désolé remplit l'air de gémissements et de cris. Ce jeune enfant décrit dans ce texte, Yves Pedrono, c'est Émile. L'Émile de Rousseau, qui dans le texte éponyme s'intéresse lui aussi à l'enfance, au regard que peut porter l'enfant sur le monde. Il évoque l'importance de la propriété pour faire prendre conscience à l'enfant de ce que signifie que ce mot et de comment on peut acquérir une chose. Et il prend l'exemple aussi d'un jardin dont s'occuperait l'enfant, qu'il voit piétiner un beau jour. C'est exactement ce qui arrive à Joey au début du film.
Absolument.
Et de ce piétinement naît le sentiment d'injustice qui est aussi très présent au sein de ce film en réalité.
Oui, tout à fait. Et nous avons beaucoup insisté sur le personnage de Joey, à juste titre d'ailleurs, puisque c'est un personnage central. Mais il faut noter également, car ça c'est encore une particularité de L'Homme des Vallées Perdues, que toutes ces familles de petits cultivateurs ont de nombreux enfants et qu'ils sont très présents dans le film, ce qui est quand même assez rare pour un western. Et ça crée là aussi une dimension intéressante. Et je reviens à ce que vous citiez de Rousseau à l'instant. Effectivement, il y a là un drame, une injustice qui est vécue par ces futurs adultes.
Comme si dans les deux cas, dans le cas de Rousseau comme dans le cas du western en général et de celui-ci en particulier, il s'agissait de remonter à une forme de mythe originel.
Absolument.
En réalité, l'enfant qui n'était pas l'état nature, mais avant la rencontre avec la société et les adultes qui vont le corrompre. Et dans le film, c'est pareil, ils vivent loin de toute forme de société, ils se font chasser par un méchant, mais la cellule familiale et tout ce qu'il y a de gentil et d'innocent, il y a le même rapport au mythe, me semble-t-il.
Absolument. Je suis d'accord avec vous. Et ça fait partie des choses que je trouve, pour ma part, très justes, très sensibles, mais qui n'avait pas l'air de plaire à l'époque où le film est sorti, parce qu'on voulait un peu moins de psychologie, et un peu plus de tir à la carabine ou au pistolet, sans doute.
Mais d'ailleurs, ce que vous dites de la référence à la Bible va dans le même sens.
Oui.
C'est le même passé mythique ou mythologique.
Absolument. Et c'est quand même un aspect fondamental, puisqu'on touche en réalité à l'histoire de l'humanité. Ça va au-delà de l'histoire de l'Amérique, on touche à l'histoire de l'humanité. Comment progressivement l'homme a évolué, comment de nomade il est devenu sédentaire, comment il est passé de l'élevage à l'agriculture. C'est en ce sens d'ailleurs que le mythe de Caïn et d'Abel est absolument essentiel.
D'autant que ce sont deux frères.
Eh oui, bien sûr. Et on retrouvera, alors ce n'est pas le cas de l'homme des vallées perdues, mais on trouve dans d'autres westerns le traitement de ce sujet entre les frères et du conflit entre les frères. C'est un grand thème du western.
Qui, donc ce western évoquerait davantage l'histoire de l'humanité que celle des États-Unis, ou les deux conjointement, disons,
oui,
puisqu'on l'a dit, il
n'y
a pas les,
oui,
les Indiens, donc on est dans un type d'histoire qui est quand même assez particulier. Mais il montre, ou plutôt je vais vous le formuler sous forme de question, car c'en est une, ce film montre-t-il l'échec d'une vie sans armes, puisque comme pour défendre les colons, pour défendre les cultivateurs, Shane va devoir avoir recours à son pistolet, il va devoir affronter en face à face Wilson, celui qui a tué déjà l'un des cultivateurs, et c'est parce qu'il sait très bien se battre et parce qu'il a su dégainer au bon moment qu'il s'en sort, qu'il sauve la famille.
Oui.
Est-ce l'apologie des armes à feu ?
Alors, là, je crois que c'est la limite de l'épouvante de Stevens. Il est très méfiant à l'égard des armes, mais en même temps, George Stevens est américain. Et l'histoire des États-Unis s'est construite sur les armes. Aujourd'hui, quand maintenant plusieurs fois par an nous avons des massacres dans des écoles en particulier, nous Européens sommes toujours extrêmement étonnés, scandalisés bien sûr, mais étonnés. Nous ne comprenons pas, ça nous dépasse. Bien, mais pour un Américain, hélas, c'est quelque chose qui fait partie de leur histoire. J'aurais presque envie de dire, pour employer une image à la mode, de leur ADN. L'arme, les Américains ne peuvent pas concevoir un monde sans armes. Ils en souffrent, c'est vrai, mais toute leur culture repose sur cela. Et c'est pour ça que dans ce film, on va finalement régler le problème à coup de pistolet.
Dans les deux cas, on revient à ce que disait Shane, un pistolet n'est pas en soi bon ou mauvais, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, parce qu'il se sert du revers du pistolet pour assommer le père de famille qui voulait aller affronter l'ennemi, parce que le Joey ne lui pardonne pas, il lui dit tu as frappé mon père avec un pistolet, je te déteste, ce qu'il retire immédiatement, mais quand même. Et il va pointer le pistolet cette fois-ci face à son ennemi pour lui tirer dessus. Et il est à moins une minute, à moins une seconde, c'est lui qui y passait. Donc sa rapidité, sa capacité de viser juste le sauve.
Ouais. Et Shane est, comment dire, alors nous avons souligné son humanité au moment où il est blessé, où il souffre. Bon, il faut encore la souligner là, dans la scène que vous venez d'évoquer, car son combat avec Joe Starrett qui avait décidé d'aller se battre contre le tueur Wilson, va en être empêché par Shane, mais va en être empêché par Shane à la suite finalement d'un geste qui est un peu une traîtrise, puisque Shane n'arrive pas à dominer Starrett, ils se battent dans la cour, il n'arrive pas à dominer Starrett, et finalement, il va devoir l'assommer d'un coup de pistolet, ce qui, sur le coup, rend absolument, met en colère le petit Joey, parce qu'il n'attendait pas ça de Shane. Donc Shane, là, est vraiment un homme très ordinaire à cet instant. Mais quelques minutes plus tard, quand il sera au saloon et qu'il va rencontrer Jack Wilson, il va redevenir cette espèce d'ange exterminateur qu'il est quand même, hein, d'une certaine manière.
Vous reprenez le vocabulaire de la Bible, là.
Eh oui, tout à fait, bien sûr, oui, oui. Et oui, parce que je crois quand même qu'il y a, quelque chose de, cela. Et même si, à la fin, il dira quand même qu'on ne peut pas tuer impunément.
Et que le meurtre condamne à l'errance.
Eh oui.
Il va repartir.
Eh oui. Le meurtre condamne à l'errance. Et là, il y a une forme de, déchéance. L'ange, c'est l'ange déchu.
C'est-à-dire qu'il prend la mesure de la portée morale de son acte. Il l'a tué par nécessité, mais il sait que ça le condamne à l'errance et il veut épargner cette souffrance au petit garçon.
Oui. Et figurez-vous, là, alors qu'il nous semble, je crois, intéressant de nous poser ce problème moral, ça me paraît être un vrai sujet. Eh bien, figurez-vous que quand le film est sorti en 1953, ben ça faisait partie des choses que André Bazin, pour revenir sur lui, mais d'autres, critiquaient dans ce film.
Eh bien, heureusement qu'en 2018, grâce à vous, Yves Pedronneau, ce film est désormais non plus critiqué, mais célébré. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Ben, de rien, je vous remercie.
Et je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, hein, De la Bible Western, l'histoire de la naissance des États-Unis et Dieu créa l'Amérique, aux éditions Quimet. On se quitte avec une chanson sur l'utilisation des pistolets chez les enfants. C'est une chanson et peut-être est-ce un rêve.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play?" Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo aujourd'hui, attention, vous passez aux aveux.
À la question de l'aveu, en tout cas, confession publique, confidence sur le divan, exercice d'autocritique ou excuse devant la justice, pourquoi un tel phénomène de l'aveu, morale, droit, religion, politique, pourquoi est-il devenu un fait social total? Certes, l'accroissement du domaine public avec les réseaux sociaux, l'entremêlement entre domestique et politique ou l'exigence de transparence peuvent expliquer en partie cette importance de l'aveu, cette importance d'être visible et lisible d'un bloc et en toute cohérence. Mais que dit l'aveu? Si celui qui avoue a tout du coupable, l'aveu, lui, est-il forcément suspect?
Je vais aller me dénoncer. Mais j'ignore toujours pourquoi je dois le faire.
Mais pourquoi? Mais parce qu'en te dénonçant, tu effaceras une partie de ton crime.
Un crime? Quel crime? Quel crime? Est-ce un crime que de supprimer une affreuse vieille qui dépouille les pauvres gens de leurs derniers sous? Je ne l'admets pas, je ne l'admettrai jamais.
Rodionne! Rodionne, que dis-tu là? Mais tu as versé le sang.
Et puis, il y en a d'autres qui ont versé le sang.
Crime et châtiment, le roman de Dostoïevski de 1866 peut apparaître comme l'exemple par excellence de l'aveu. C'est l'exemple auquel recourt en tout cas le philosophe Jérôme Poré dans sa Phénoménologie de l'aveu, court essai paru chez Hermann, qui veut faire parler l'aveu lui-même, et pas forcément la psychologie de celui qui avoue, ni notre époque si tentée, comme je l'ai dit, par les confessions. Mais revenons à Crime et châtiment comme l'illustration parfaite de l'aveu. Ce qui compte dans ce roman, ce sont certes les raisons du crime ou leur absence, et le crime lui-même, commis par Raskolnikov, mais c'est aussi l'aveu de Raskolnikov et ce qu'il révèle de la culpabilité du héros et de la culpabilité en général. Avec cette question, à quel moment est-on coupable ? On pourrait dire, dans le cas de Raskolnikov, qu'il devient coupable au moment même du crime, dès qu'il tue Alyona Ivanovna, la vieille usurière. Mais n'est-ce pas aussi quand il reconnaît et avoue son crime ? C'est une des questions que pose l'aveu. Ne serait-il pas, au fond, la véritable cause de la culpabilité ? N'est-ce pas l'aveu qui rend coupable plus que le mal commis ?
Jusque à quand, Seigneur, seras-tu irrité ? Jusqu'à la fin ? Ne garde pas le souvenir de nos iniquités, car je sentais qu'elles me retenaient encore, et je poussais des cris appelant la pitié. Encore combien de temps ? Combien de temps ?
Que fait Raskolnikov quand il avoue, Rousseau quand il se confie, ou Saint-Augustin, comme on l'a entendu déclamer par Gérard Depardieu, quand il se confesse à Dieu ? C'est bien la question, quand on avoue, on ne fait pas que dire, on fait aussi quelque chose, on accomplit aussi un acte, pour nous et aux yeux des autres, mais qu'est-ce qu'on accomplit comme acte et aux yeux de qui ? Les aveux semblent présupposer qu'il y a eu une faute, qu'il s'agit de l'expier, de la réparer, mais se fait-on coupable ou devient-on innocent ? Et pour les autres ou pour soi ? Rousseau, par exemple, ne semble s'adresser qu'à lui-même dans ses confessions et pour se déculpabiliser. Saint Augustin, au contraire, s'abandonne à Dieu. Il se confie à lui dans tous les sens du terme, mais pour enfoncer le clou. Mais peut-on tout avouer ? Une confession peut-elle être totale, comme l'aimeraient Rousseau et Saint Augustin ?
Alors, je ne vois vraiment pas pourquoi Élisabeth serait allée me dénoncer.
Pourquoi dites-vous dénoncer ?
Devinez.
Vous pensez que c'est forcément malveillant ?
Mais madame, je n'ai pas de troubles psychiatriques ou vos conneries de je ne sais pas quoi.
Je vois que vous suivez une psychanalyse depuis 8 ans, à 3 séances par semaine. Vous avez l'air en détresse.
Oui, c'est mon âme qui me fait souffrir, ça vous n'y pouvez rien.
Et pourquoi je n'y peux rien ?
Bien parce que vous êtes une femme.
Peut-on tout avouer et vouloir tout avouer ? L'une des grandes idées de Michel Foucault était de dire que l'aveu avait le tort de rendre forcément coupable son auteur. Une autre, de notre époque, est de céder à la tentation de l'innocence, tout dire pour éviter d'être coupable. Mais que faire des gens, comme le personnage de Mathieu Amalric dans Rois et Reines d'Arnaud Desplechin, qui ne veulent pas se dénoncer, qui ne veulent pas se dire coupable ni s'innocenter, qui ne veulent pas se confesser ? C'est l'idée, pour le coup, de Jérôme Poré dans cet essai, défendre l'aveu, mais en réhabilitant tout l'inavouable qu'il comporte, on ne dira jamais tout, mais notre acte en dira beaucoup de nous.
Merci Géraldine. Rappelez-nous le titre de ce livre qui a l'air passionnant.
Phénoménologie de l'aveu, c'est donc de Jérôme Poré aux éditions Hermann.
C'est noté, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Maud Markiewicz, David Pargamin, Géraldine Mosna-Savoie, Milena Helling à la réalisation, Jean-Frédéric à la prise de son avec Olivier Dupré. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur les westerns. Demain, nous parlerons d'Impitoyable de Clint Eastwood en compagnie du professeur de philosophie Marc Rosmini. D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que toutes les précédentes consacrées aux westerns et celles de la semaine d'avant encore sur le bac philo, c'est très simple, très facile. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez tout réécouter en ligne, mais aussi télécharger, podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Instagram, Facebook, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.